Rebonjour à tous. Voilà le sujet, la stupéfiante précision de la Bible. Nous allons considérer ce sujet sur cinq niveaux différents. On veut voir la précision 1, sa scientificité. Ensuite, précision 2, sa transmission. Ensuite, sa chronologie. Précision 4, son souci du détail. Et ensuite, sa prophétie. On commence par précision 1, sa scientificité. J'ai écrit un livre intitulé par « La Bible et la science ». La recherche a du retard. Et là-dedans, je présente 30 exemples où la science a du retard par rapport à la Bible. Donc, des découvertes dans la science moderne qu'on retrouve il y a des milliers d'années dans la Bible. Comment c'est possible? Si on considère la Bible comme étant un livre humain. Mais c'est un argument fort pour l'inspiration de la Bible, l'inspiration divine de la Bible. Et voilà, je ne veux pas répéter ce que vous pourrez lire dans ce livre, mais j'ajoute, parce qu'il y a plus, que 30, mais je donne là un exemple de 30. Et là, nous allons parler des sources hydrothermales des grands fonds. Voilà, dans le livre de Job, nous avons une histoire d'un homme qui a vécu au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, dans l'époque après le déluge. Et là, Dieu, dans les chapitres vers la fin, lui pose environ 80 questions. Des questions qu'il savait bien répondre, et des questions difficiles et des questions où il ne savait pas répondre. Entre autres, Job 38, verset 16. Dieu dit, en s'adressant à Job, « Es-tu allé aux sources de la mer ?» Chose étonnante. Il y a des sources de la mer. Ces versets sont tous des versets poétiques en hébreu. Donc, c'est une ligne de vers, « Es-tu allé aux sources de la mer ?» Ensuite, une deuxième ligne qui répète avec les autres mots. « Et t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ?» Il faut savoir, « abîme », le mot hébreu veut dire « les profondeurs de l'océan ». Tiens, des sources de la mer, et il se trouve dans les profondeurs de la mer. Eh bien, aujourd'hui, on les connaît. Mais c'est une connaissance récente. On les trouve dans les profondeurs de 700 à 4000 mètres. Et n'est-ce pas, alors, pour aller se promener dans les profondeurs de l'océan, c'est pas facile. Pour la première fois, ça a été observé en 1977, avec un sous-marin en haute mer. Et ces sources laissent sortir de l'eau chaude jusqu'à plus de 464 degrés. Alors vous dites, mon épouse ne sait que faire la lessive à 95 degrés. Oui, la mienne aussi, lorsqu'on vit vers 400-500 mètres, n'est-ce pas? C'est normal. Quand on est à La Rochelle, c'est un peu différent. Oui, parce qu'au niveau de la mer, on peut aller jusqu'à 100, puisque la pression de l'air est plus grande ici à La Rochelle que chez nous. Et lorsqu'on entre dans les profondeurs de la mer, la pression est encore plus grande. Et c'est pour ça, c'est le principe que qu'on est de la cuisine. Dans quelques minutes, les pommes de terre sont faites. Cuite, puisque sous pression, on arrive à des à l'eau chaude beaucoup plus que 100 degrés. C'est ça le principe. Eh bien, jusqu'à 464 degrés Celsius, et on pense environ 160 km cubes d'eau est sortie par an de ces sources à l'océan. Et pour voir un exemple, en réalité, voilà, c'est ça. Ces sources hydrothermales des grands fonds. Ou, un autre exemple, alors là, on dit tout à fait différemment ces versets. Es-tu allé aux sources de... Es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Non, non. Mais pourquoi tu penses de pouvoir mieux juger sur la question de la justice de Dieu quand tu es tellement limité? Oui. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a eu des yeux qui ont vu ces sources, mais nous tous, nous pouvons dire non. Mais comment? On n'a pas l'argent pour y aller. Alors, on arrive déjà à précision 2. Vous voyez, on avance bien cette fois. Sa transmission. Eh bien, quand on rencontre des gens dans la rue qui nous disent « Oui, mais la Bible, ça a été copié tant de fois, nous n'avons plus l'original. » Donc, pourquoi faire des réflexions sur la crédibilité de la Bible lorsque nous avons de toute façon plus le texte original? Eh bien, comment répondre? Il faut expliquer, parce que les gens en général, même les Français bien éduqués, ne connaissent plus que la Bible est composée de deux parties. Première partie, l'Ancien Testament, écrit avant Jésus-Christ. Ensuite, le Nouveau Testament, écrit après Jésus-Christ. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et quelques parties en araméen. Et le Nouveau Testament, en grec. Eh bien, pour répondre à ces questions de la transmission, il faut distinguer l'histoire de l'Ancien et l'histoire du Nouveau Testament. Donc, l'histoire du texte, de la transmission de l'Ancien et du Nouveau Testament. Eh bien, pour l'Ancien Testament, nous possédons aujourd'hui plusieurs milliers de manuscrits hébraïques datant du Moyen Âge. Environ 6000. On appelle cela le texte massorétique, parce que les rabbins au Moyen-Âge qui ont soigneusement copié les manuscrits bibliques étaient appelés les massorètes. Ça vient de l'hébreu massora, qui veut dire transmission. Eh bien, ici, vous voyez le codex d'Alep de 930 après Jésus-Christ. J'ai dit, du Moyen-Âge. Et voilà, c'est le meilleur manuscrit qui existe dans le monde. Déjà, Moshe ben Maimon, c'était un des plus grands rabbins dans le judaïsme, au XIIe siècle, et il a dit, ce manuscrit, c'est la couronne des manuscrits. Et voilà, les juifs syriens à d'Alep, au nord de la Syrie, ils étaient bien fiers d'avoir ce manuscrit. Mais d'ailleurs, lors des persécutions juives, après l'institution de l'État d'Israël, en 1948, cette synagogue a été attaquée terriblement, et depuis, on n'a plus eu le texte d'Alep. Mais des années plus tard, on l'a retrouvé. Avec une certaine perte de texte. Avant, c'était complet, l'Ancien Testament. Oui, alors vous voyez là le texte hébreu, et vous voyez à la marge des signes. Vous voyez? Ce signe-là, c'est comme la lettre L. C'est L en hébreu. Lamed. Avec un point, ça veut dire, c'est une abréviation pour dire en araméen, l'arit. Et cela indique, sur la même ligne, il y a un mot avec un circellum, on dit comme ça, on comprend? C'est un petit cercle, un petit cercle, en latin, circello. Et alors, ça indique que ce mot se trouve seulement une fois dans l'Ancien Testament. Pour dire, copiste, fais attention d'écrire exactement, copier exactement, et ne pas changer l'orthographe. Et alors, vous voyez, il y a bien des mots, là, juste sur ces pages. Et là, vous voyez notre signe, ça c'est bête, la deuxième lettre de l'alphabet. Aussi avec un point, ça veut dire, ce mot indiqué dans cette ligne n'apparaît seulement deux fois dans l'Ancien Testament. Et ainsi, ils ont compté des mots et aussi des lettres dans l'Ancien Testament. Et des expressions. Pour après, dans la copie, recompter si ça correspond. Alors, c'est en fait le système que fait notre ordinateur, n'est-ce pas, qui compte les lettres, qui compte les mots, et avec ça, on peut aussi comparer deux textes qu'on a écrits, qui sont presque la même chose, pour voir où il y a la différence. Donc, ils ont travaillé avec des méthodes identiques à celles des ordinateurs. Et par ça, ils ont copié d'une façon parfaite. Alors les critiques, lorsqu'ils disent « Oui, mais la Bible a été transformée », ils disent « Oui, c'est quand même impressionnant. » Oui, mais c'était au Moyen-Âge. Mais qui nous dit qu'avant le Moyen-Âge, il copiait aussi de la même façon? Alors, on ne croit pas que la Bible soit bien transmise. N'est-ce pas? Le croyant, il a toujours pu dire, oui, mais nous avons une promesse divine. En Ésaïe 40, au verset 8, la Bible nous dit, Udvar Elohim, Yakum, le Olam, en français, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous sommes convaincus que Dieu a protégé la transmission du texte biblique selon sa promesse. Oui, mais ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Mais nous sommes des rationalistes. Alors, comme les rationalistes du siècle des Lumières, n'est-ce pas? Oui. Mais le temps a avancé. Voyez ici une des grottes de Qumran. C'est la grotte 4. Des 11 grottes de Qumran où on a trouvé des manuscrits de la Bible qui sont de l'époque avant le Moyen-Âge. Pour être plus précis, du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle. Jusqu'à 68 après Jésus-Christ. Eh bien, dans la grotte 4, on a trouvé des milliers de fragments de textes bibliques et aussi de commentaires bibliques, etc. On a trouvé dans la grotte 1 le rouleau complet d'Ésaïe. Oui, vraiment, un rouleau de 7,34 m. Datant du 2e siècle avant Jésus-Christ, et tous les 60 chapitres que vous avez dans votre Bible, d'Ésaïe, sont dedans. Avant l'ère chrétienne. Eh bien, l'étude des manuscrits de Qumran, après des dizaines d'années, n'est-ce pas, on est très relaxé vis-à-vis de ce sujet, et on peut dire, on trouve le texte massorétique, aussi à Qumran. Aïe. Donc, 1000 ans, 1100, 1200, 1300 avant le texte massorétique qu'on avait toujours pour nos Bibles françaises, qu'on passe dans l'Ancien Testament. Mais là, les critiques n'arrêtent pas tout de suite. Ça, il faut dire. Là, ils ont dit, oui, mais à Qumran, on a trouvé, bien sûr, le texte masorétique, mais on trouve aussi le texte des Samaritains. N'est-ce pas, le peuple samaritain a accepté des Juifs les cinq livres de Moïse, les Pentateuques. Et là, il y a des différences avec le texte juif. Mais ça, on trouve aussi à Qumran. On trouve aussi le texte similaire à la traduction des Septante. Vous voyez, la traduction des Septante était une traduction en grec faite par des Juifs en Égypte au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et là, il y a bien des différences dans cette traduction avec le texte hébreu. Oui, alors, on a le texte de la Septante, on a le texte samaritain, on a le texte masorétique. Donc, on ne peut pas dire le texte masorétique, c'est l'original. Alors, on ne sait pas. Pour rester flou. Ça, c'est typique pour les critiques. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Entre deux, on a avancé en science. Et on peut montrer que le texte masorétique, c'est le texte qui a été toujours gardé au temple à Jérusalem. D'abord dans le tabernacle, après dans le temple de Salomon, qu'on appelle le premier temple, ensuite dans le deuxième temple qui, par les Romains, à l'an 70, n'est-ce pas, nous faisons la répétition de plusieurs sujets, l'an 70, lorsque les Juifs lorsque l'État juif a été finalement détruit, Jérusalem, et le temple a été détruit. Mais ce texte central était conservé dans le temple. Et voilà, lorsque on a habité par exemple à Nazareth, le texte à la synagogue, on a pu prendre à la prochaine rencontre à Jérusalem pour la Pâque, pour Pentecôte, pour la fête des tabernacles, comme maintenant, pour comparer au temple avec le texte de référence. Et ainsi, on a pu corriger dans le pays les manuscrits. Mais ceux qui étaient loin de Jérusalem, en Égypte, et là, entre deux, il y a le désert du Sinaï. Ça, c'est plus qu'une frontière, vous voyez. Il est dangereux de faire simplement un voyage à travers le désert du Sinaï. Probablement, on va mourir, si on n'est pas spécialiste. Eh bien, je veux dire, là, le texte a pu changer sans la correction. Et les Samaritains étaient ennemis des Juifs et n'avaient pas accès au temple à Jérusalem. Et ils ont même exprès changé le texte. Les Samaritains, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, je connais le souverain sacrificateur des Samaritains, vers Nablus, je l'ai rencontré une fois, et aussi son frère. Alors, eux disent, c'est ici le lieu d'adoration, sur le mont Garizim, et non pas Jérusalem. Et dans les 10 commandements, ils ont introduit un commandement qui dit, il faut adorer Dieu sur le mont Garizim. Oui, ça c'est l'arrière-plan de Jean 4. Mais ça sera le sujet de demain, n'est-ce pas? Nous relions une conférence avec l'autre. Eh bien, ils ont même exprès changé le texte. Et ils ne se sont pas référés au texte central du temple à Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a une différence. Mais aujourd'hui, on peut montrer le texte masorétique. C'est le texte qui a été conservé au temple et que les rabbins ont pu sauver, malgré la destruction de Jérusalem à l'an 70, malgré cette catastrophe. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui dire, même avec des arguments scientifiques, que cette parole d'Ésaïe 40 est juste, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Parlons du Nouveau Testament, qui a été rédigé entre 30 et 98 après Jésus-Christ, vers 100 après Jésus-Christ, Jean, le dernier des apôtres, est décédé. Mais là encore, écrit les trois lettres de Jean, l'Apocalypse, l'Évangile de Jean. Alors, aujourd'hui, nous avons presque 6000 manuscrits grecs. Donc, manuscrits, ça veut dire des fragments et des textes environ le Nouveau Testament. Et tous qui est entre deux. Et voilà, nous avons des manuscrits même du 1er siècle. Par exemple, le papyrus P46 date des années à peu près 80, selon des travaux de datation assez récentes. Et c'est un manuscrit qui englobait les lettres de Paul, inclus la lettre aux Hébreux. Romains, Hébreux, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, etc. Et voilà, nous avons encore 80% des lettres de Paul dans ce manuscrit, du 1er siècle. Mais nous avons des manuscrits aussi du 2e siècle, 3e, 4e, 5e, 6e. Je ne dois pas compter maintenant jusqu'à... pour montrer que je sais compter jusqu'à 16. Mais au 15e, 16e siècle, n'est-ce pas, l'époque où Gutenberg a aidé à imprimer la Bible, aussi les textes grecs. Et depuis, on n'a plus besoin de faire des transcriptions à main, des manuscrits. Alors, de chaque siècle. Et ce qui est remarquable, la grande majorité des textes montre une unité qui est stupéfiante. On appelle ça le texte majoritaire. Et voilà, dans le passé, il y a eu des critiques de la Bible qui ont dit « Oui, mais le texte majoritaire, ce n'est pas le texte originel, parce que ça provient d'une révision de la Bible, du texte biblique, au 4e siècle après Jésus-Christ. » C'est pour ça qu'il y a cette unité. Mais aujourd'hui, vous pouvez même parler avec des spécialistes d'histoire de l'Église, critiques de la Bible. Alors, est-ce qu'il y a eu une révision au 4e siècle? Jamais. Il n'y a historiquement jamais eu une telle rédaction du texte, mais néanmoins, la majorité, et non pas venant d'une région, comme par exemple le texte Nestlé-Aland, le texte minoritaire, c'est typique pour l'Égypte. Non. En Italie, en Grèce, en Turquie, cette unité. Pourquoi? Oui, parce que les apôtres n'ont jamais, et les écrivains du Nouveau Testament, n'ont jamais envoyé un texte en Égypte. Mais en Italie, lettre aux Romains, en Grèce, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Philippiens, Thessaloniciens, etc. Ensuite, en Turquie, Éphésiens, Colossiens, l'épître aux Éphésiens, etc. L'Apocalypse, l'Évangile de Jean. Eh bien, pendant quelques siècles, on avait encore les originaux. Et c'est pour ça qu'on avait un texte de référence. On pouvait donc corriger les manuscrits. Et cela a provoqué cette stabilité du texte. Et pour le texte minoritaire d'Égypte, dans la littérature scientifique, vous pouvez lire, le texte est flou. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un original pour corriger. Mais le texte majoritaire, la masse, dans des milliers, nous montre, c'est aussi un MT, n'est-ce pas ? Ou TM, texte majoritaire, texte majoritaire. On peut retenir comme ça, TM. Oui, et là, nous pouvons aussi conclure, l'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. D'ailleurs, quand on parle avec des musulmans, ils nous expliquent, oui, la Bible, ils disent, Injil, pour dire évangile, pour l'Ancien Testament, Taurat, Torah, la loi de Moïse. Alors, bien sûr, c'était la parole de Dieu, mais les chrétiens et les juifs ont changé le texte. C'est pour ça que nous ne lisons pas le Nouveau Testament. Nous ne lisons pas l'Ancien Testament, selon le Coran. Mais le Coran, autrefois, était exactement correspondant à la Bible. Et maintenant, bien sûr, il y a des différences. Si vous lisez les deux, vous voyez, ce n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Abraham aurait sacrifié Ismaël. Mais le texte biblique dit, non, c'était Isaac. Pour donner un exemple. Alors ils disent, oui, mais les chrétiens et les juifs ont changé. Alors on peut poser la question pour le Nouveau Testament. Mais quand est-ce qu'ils ont changé? À l'époque de Mahomet, Mohammed, 6e, 7e siècle. Mais nous avons des manuscrits du 7e siècle. Ou avant, mais nous avons des manuscrits du 6e, 5e, 4e, 3e. Mais c'est la même livre. Ou après, 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle. Je ne dois pas compter tout. Mais ça n'a jamais été changé. Alors, la conséquence est inouïe. Donc, cet enseignement islamique est faux. Et le Coran ne correspond pas à la Bible. Non. On ne peut pas dire que c'est le sceau de la Bible. Non, c'est la contradiction à la Bible. Et nous pouvons prouver que le texte n'a jamais été changé. L'herbe est séchée, la fleur est fanée, la parole de notre Dieu demeure à toujours. Précision 3. Oui, j'ai dit, on avance bien. Sa chronologie. Quand on commence à lire la Bible, on se rend compte qu'il y a bien des chiffres de datation du temps. Et quand on étudie encore plus profondément, on peut même établir une chronologie, donc une suite du temps à travers l'Ancien Testament. Et finalement, avec un pont de Daniel 9 jusqu'au Nouveau Testament et même jusqu'à l'an 70. Et lorsqu'on étudie encore mieux, on réalise parfois, tiens, il y a un trou où la chronologie ne continue plus. Mais lorsqu'on étudie, on trouve, ah, là il y a encore un chiffre. Et puis là, on peut faire le pont. Donc c'est une chronologie sans lacune. Depuis le début de la Genèse, à travers l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'an 70, destruction du temple et dispersion juive. C'est grandiose. Parce que c'est unique dans la littérature humaine. Mais là, on peut dire qu'on critique. Oui, c'est unique, mais ces chiffres sont pleins d'erreurs. Un exemple? Oui. Vous voyez, après la mort des rois David et Salomon, qui ont régné sur les 12 tribus d'Israël, chacun 40 ans, eh bien, l'empire, le royaume d'Israël a été divisé en deux royaumes. C'est une chose tragique, dans une rupture des frères. Et voilà, au nord, le royaume des 10 tribus, appelé dans la suite Israël. Donc le nom pour les 12 est utilisé pour les 10, Israël. Et au sud, le royaume de Juda, pour la tribu de Juda et de Benjamin. Restez ensemble. Et voilà, la Bible nous raconte l'histoire des rois qui ont suivi Salomon sur le trône à Jérusalem. Vous voyez ici, Roboam, ensuite Abijam, Asa, Josaphat, etc., etc. Mais la Bible nous raconte aussi pour les 10 tribus, après Salomon, il y avait Jéroboam, la tribu d'Éphraïm. Ensuite, Nadab, Baécha, Éla, Omri, Akab, Akazia, etc. Et la Bible nous donne les chiffres du temps où ils ont régné. Pour chaque roi. Et parfois, il nous donne même des synchronismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des versets bibliques, n'est-ce pas? C'est décrit dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. Et parfois, il est dit à l'année de ce roi du royaume de Juda, eh bien, le roi d'Israël, c'était telle année. Ça fait un synchronisme, n'est-ce pas? Mais lorsque vous essayez de faire le calcul avec ces versets, ça ne joue pas du tout. Mais c'est catastrophique, je vous montre. Roboam, la Bible dit 17 ans. Abijam, 3. Asa, 41. Josaphat, en tout 25. Mais en la 18e année, nous trouvons un synchronisme. Je vais juste montrer. Parce que pour les 10 tribus, il y avait Jéroboam, 22, Nada, 2, Baécha, 24, Éla, 2, Omri, 12, Akab, 22, Akazia, 2. Et voilà un roi, 22, 52, dit la 18e année de Josaphat correspond à la 2e année d'Akazia. Donc, c'est clair. Ça devrait donner le même résultat. Mais pour Juda, ça nous donne 79. Et pour Israël, 86. Et ce n'est pas la même chose. Et lorsque vous allez continuer avec les autres rois, ça ne devient pas mieux. Ça reste un problème. Et le problème est connu au moins depuis 2300 ans. Pourquoi nous savons cela? Il faut dire, les Juifs, pour copier le texte hébreu, c'était une chose rigide. Ils ont transmis avec une ténacité incroyable. On a même dit, en judaïsme, dans la littérature rabbinique, vous le trouvez, donc, l'exhortation d'un scribe, fais attention de ne pas changer une lettre de la Torah. Celui qui change une lettre est un destructeur du monde. Vous voyez ce respect. Mais pour les traductions, on se sentait libre. Ça c'est vrai pour la traduction des 70. Ça c'est vrai pour les traductions araméennes que vous trouvez dans chaque Bible rabbinique. Vous avez le texte hébreu en grandes lettres. Ensuite, les targumim, ce sont les traductions en araméen avec des lettres un peu plus petites. Eh bien, il y a des commentaires dans le texte. Par exemple, Ésaïe 53, qui commence à 52, verset 13. « Voici mon serviteur agira sagement. » C'est ajouté le Messie. Simplement pour expliquer, et là, le serviteur souffrant, c'est le Messie. Dans chaque Bible rabbinique, encore aujourd'hui, vous trouvez ça. Mais vous voyez, d'introduire simplement une explication. Et ils font encore beaucoup plus dans les Targumim. Donc on se sentait libre. Et les traducteurs de la Septante, la même chose, ils ont vu le problème des chiffres, des rois, ils ont changé les chiffres. Mais ils ont rendu l'affaire encore pire. Ce n'est pas une solution de vouloir prendre la Septante. Mais, alors, vous voyez, pour le texte hébreu, on savait qu'il y a un grand problème. Mais on n'a pas changé les lettres, les chiffres. Avec une ténacité, on a transcrit le texte. Mais aujourd'hui, depuis le XXe siècle, nous savons la solution. Au Proche-Orient, de l'Antiquité, on n'a pas toujours compté les années des rois de la même façon. On a, par exemple, compté avec une année AMT, Retenez ce terme, AMT. Ça veut dire année de montée sur le trône. Et dans d'autres royaumes, on n'a pas connu ce système de AMT. Je vais expliquer. Par un exemple, mais fictif. Alors, si mon père était roi de Helvétie, de la Suisse, jusqu'à l'an 2000. Là, il est mort, il est décédé. Alors, disons, il était roi jusqu'en février 2000. Alors, j'ai dû suivre sur le trône. Alors, c'était son 50e année, l'an 2000. Et pour moi, c'était la première année du royaume. Mais vous voyez maintenant le problème. Plus tard qu'on va faire la chronologie, on a la difficulté de faire attention de ne pas compter 2000 deux fois. Parce que si on dit que c'était l'an 50 du père et l'an 1 du fils, on compte l'année deux fois. Eh bien, on peut éviter ce problème en disant pour le fils AMT, c'était simplement l'année de monter sur le trône. Et 2001, c'est sa première année, deuxième, troisième, etc. C'est bien, n'est-ce pas, ce système. Alors, on peut montrer, c'était typique pour les dix tribus de compter 100 AMT. Et c'était typique pour les rois de Juda de compter avec AMT. Et je peux vous dire, les années bibliques, non pas seulement pour les rois, on peut, selon les règles de la mathématique, on peut les mettre dans un système fermé où il faut changer aucun chiffre chronologique de la Bible. Et ça clôt. Malheureusement, dans les lexiques bibliques, c'est normal qu'on dit oui, mais il semble que ce chiffre-là, c'est une erreur de transmission, ou ce chiffre, il faut comprendre différemment. Eh bien, quand on fait donc une chronologie vraiment stricte, on arrive à faire un système chronologique qui est cohérent. Il n'y a pas un seul chiffre à corriger. N'est-ce pas? Je vais, avant de montrer la solution, encore vous préparer. Et d'ailleurs, la photo, j'ai pris à la cité de David, à Jérusalem de l'Est. Et ici, vous voyez les tombeaux des rois de Juda, que vous pouvez toujours visiter aujourd'hui. Là était David enterré et beaucoup des descendants des rois de Juda. Alors, vous voyez, en Juda, c'était typique de compter AMT, 1, 2, 3, 4. En Israël, 10 tribus, 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça, c'est la même chose. Et lorsqu'on fait attention, il faut simplement faire ceci. Les chiffres de Juda, on peut compter comme ils sont. 17, 3, 41, 18. Mais pour Israël, Jéroboam, 22, donc compte 21. Nadab, 2, 1. Baïcha, 24, 23. Et là, 2, 1, etc. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Au lieu de 86, 79. Et vous pouvez continuer? Ça continue? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on peut tourner la chose. Alors, les Massoriques savaient qu'il y a un problème, mais ils n'ont pas osé de changer un chiffre, un seul chiffre. Ils ont, avec ténacité, transcrit le texte comme il était devant eux. Et alors, ça prouve de nouveau cette précision de la transmission. Et ça montre aussi ce phénomène de la chronologie biblique est unique. Alors, de nouveau, pour ne pas faire fumer votre tête, je fais une interruption musicale. Et cette fois, je vais jouer Thaïs de Jules Massenet. Méditation de Thaïs. Ça n'a rien à faire avec la méditation orientale, d'ailleurs. C'est méditation dans le sens réfléchir. N'est-ce pas? Mercredi soir, lorsqu'on a une méditation de la parole, ce n'est pas de la méditation transcendantale, mais c'est avec le cerveau et avec le cœur, on étudie la parole. Méditation de Thaïs. Thaïs réfléchit. Thaïs était une femme historique vers 300 après Jésus-Christ, une prêtresse dans un temple, semble-t-il, de Vénus. Donc, une prostituée. Et elle était confrontée avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au début, vous allez entendre une belle mélodie, très douce. Et c'est ça la difficulté de jouer sur le violon, cette mélodie avec cette douceur. Mais la bonne nouvelle est vraiment une nouvelle merveilleuse. Et ensuite, Thaïs réalise, si je me convertis, ça va bouleverser ma vie. Je vais me détourner de ces dieux et de la prostitution. Et ça crée un conflit. Et vous allez entendre le conflit intérieur. Et jusqu'au moment où elle accepte, vous allez entendre ce moment. Après, la mélodie du début revient et finit avec des sons flageolets. Là, on ne met plus vraiment les doigts sur le violon, mais seulement sur la surface des cordes. Et ça donne des sons excessivement hauts. Et ça montre Thaïs apprend vraiment le repos en Christ. Alors, la conversion dans la musique classique, souvent dans des grands concerts, pour ajouter encore, parce que ça a plu, on joue Thaïs. Voilà le sujet de la conversion. Sur YouTube, vous allez trouver Thaïs par des grands violonistes du monde, et vous pouvez dire, parler avec les gens à côté, oui, ça parle de la conversion, se détourner vers Christ. Voilà, mais vous avez repris. Précision 4, sans souci du détail. Voilà l'esplanade du temple, aujourd'hui, vue de l'Est. Là, il y avait autrefois le temple de Salomon, le premier temple, et après le deuxième temple jusqu'à l'an 70, n'est-ce pas? Et voilà, depuis la Bible, nous savons que le lieu très saint était sur le sommet. Et le sommet naturel, c'est le rocher qui actuellement se trouve dans le dôme du rocher à Jérusalem. Ça, c'était la place du lieu très saint. Cela, on peut voir depuis Ézéchiel 43, verset 12. Et voilà où s'est trouvé exactement le lieu très saint, qui était un carré de 20 sur 20 coudées. Ici, vous voyez donc le rocher dans le dôme du rocher, depuis en haut. Mais il faut savoir que les croisades au Moyen-Âge, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont transformé donc ce lieu musulman en une église. Ce qu'ils ont pensé, c'est une église. Et là, ils ont bien cassé et détruit les rochers. Donc, vous voyez ici, ils ont préparé pour mettre des pierres dessus pour faire des escaliers. Aussi là, donc à l'ouest. Et là, au nord, là, ils ont aussi fait des escaliers, ils ont cassé ici le rocher. Et là, il y a une ponte naturelle vers l'est. Là, ils ont coupé des pierres et vendu en Europe pour le même poids en or. Alors, dans les années 90, un archéologue, un des plus grands spécialistes pour l'archéologie du temple, Lane Rittmeyer, il a pu faire des recherches. Et il a trouvé, là, vers le sud, dans la région sud, on a bien des traces. On voit que le rocher a été travaillé pour être planifié. Et ça, on connaît dans l'architecture de l'Antiquité, lorsqu'on a bâti une maison sur le chêne, sur le roc, n'est-ce pas? Si on était intelligent, on a bâti sur le fondement, le roc, et non pas sur le sable, Dieu 7 à la fin, l'explique. Eh bien, on a d'abord travaillé le rocher pour mettre les pierres d'un mur dessus. Donc, il a trouvé là des traces sur une largeur de 3,15 m. Donc, c'était clair. Là, il y avait un mur dessus. Largeur 3,15 m. Ensuite, dans le reste, on ne trouve pas de traces. Donc, il savait déjà, là, il y avait un mur. Largeur 3,15 m. Et nous apprenons par la Bible que les murs du lieu très saint et des murs de 6 coudées. Dans la Bible, vous avez 2 coudées, la coudée royale et la coudée pour tous les jours. La coudée royale, c'était toujours 52,5 cm. Et la petite coudée, seulement 6 paumes, non pas 7. Donc, 7 cm et demi de moins, 45. Dans le tunnel d'Ézéchias, il y a une inscription d'Ézéchias qui dit la longueur 1200 coudées. Et lorsque vous mesurez, ça fait 45 pour une coudée. Mais pour le temple, on peut montrer, c'était 52,5. Donc, 6 coudées, par exemple, clair par Ézéchiel 41, verset 5. Et aussi dans la littérature rabbinique, on trouve ça dans exactement 3,15 m. Mais où était le mur ouest et nord du lieu très saint? Eh bien, Rittmeyer, il a observé, voyez, à l'ouest, là, le rocher. Et cela, par nature, est très raide. Et d'ailleurs, il a réalisé que la structure du rocher ici est en parallèle avec le mur est de l'esplanade du temple, avec la porte d'or. Donc, on sait que la ligne de ce mur, l'extérieur de l'esplanade, n'a jamais changé depuis Salomon. Donc, ça a été construit autrefois selon la position de ce rocher, qui servait comme pierre angulaire. N'est-ce pas? Cette pierre qui a donné la direction. Mais c'était aussi un fondement, la pierre de fondement, puisque le mur sud était dessus. Alors, il a pensé peut-être le mur ouest était au long du rocher, et de la même façon ici, au nord. Vous voyez, c'est aussi une ligne, mais c'est naturel. Très clair. Donc, il a mis ici. Vous voyez? Et ainsi, on peut mesurer de mur en mur. C'est 10 mètres 50. La Bible nous dit, 1 roi 6, verset 20, Le lieu très saint était un carré de 20 sur 20 coudées. 20 coudées royales, 10 mètres 50. C'est exact. Oui, mais n'est-ce pas, il y a des gens qui disent, ouais, mais n'importe, ça ne m'intéresse pas. Si c'est 6 coudées, si c'est 20 coudées, si c'est vraiment 52,5, ce n'est pas important. Oui, mais on est en train de considérer le souci de la parole du détail. Et quand on réalise que même dans les détails que plusieurs diront, ce n'est pas important. Mais la Bible est même là correcte, précise. Alors, encore plus lorsqu'il s'agit des choses où tout le monde dirait, oui, mais ça c'est fondamental. Alors, comme ça, on peut aussi déduire où était le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et il a réalisé au centre, il y a là une dépression. Vous voyez? Et c'est un rectangle de 79 cm de longueur. Pardon. 131 cm de longueur. Et ici, on le voit par la perspective, pas vraiment bien, mais maintenant, j'ai des photos uniques, parce qu'il y a quelques semaines, j'étais en Israël avec un groupe, et un de la groupe avait le droit d'entrer dans le rocher, dans le dôme du rocher, parce qu'il parle arabe couramment, sans accent, accent égyptien, et ils n'ont pas demandé, est-ce que vous êtes musulman? Ah, mais vous parlez bien l'arabe! À peu près comme ça. Alors, là on peut montrer 131 cm sur 100 cm. Et c'est exactement au centre de ce carré. Et vous voyez, les lignes sont en parallèle. Si vous trouvez, je ne sais pas, tout à fait en parallèle, je ne suis pas Picasso. J'ai essayé un peu. Je préfère le violon. Alors, mais c'est vraiment en parallèle. Et au centre de ce carré qu'on a retrouvé. Et maintenant, il est remarquable. En 1 Roi 6, verset 19, nous lisons « Et il, le roi Salomon, prépara le lieu très saint à l'intérieur de la maison du temple. » Pour y mettre l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc, il a préparé un endroit pour mettre l'arche de l'Alliance. Et si vous lisez Exode 25, verset, vous allez voir que la longueur de l'arche de l'Alliance est de 2,5 coudées. Ça fait 131 cm. C'est exactement la mesure de l'arche de l'Alliance. Donc, on a trouvé l'emplacement de l'Arche de l'Alliance dans le temple à Jérusalem, au centre du lieu très saint. Mais, n'est-ce pas, c'est toujours un problème si on dit seulement la moitié de la vérité. Je ne vous ai pas dit que pour la largeur de l'Arche de l'Alliance, nous avons aussi les mesures. Et ça fait en centimètres, 79 cm. Mais j'avoue, cette dépression, c'est 131 sur 100. Alors, il y a quelque chose qui gêne, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait impressionnant. Très, mais pas tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier la parole. En Deutéronome 31, 26. Vous lisez que Dieu dit à Moïse qu'il faut mettre le livre du Deutéronome, ce rouleau, vers l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Donc, nous avons là un reste de 26 cm, n'est-ce pas? 21 cm, pardon. N'est-ce pas? Ça, c'est la pression de faire une conférence et puis, dans un certain, de se concentrer. Alors, 21 cm, c'est l'espace pour le rouleau du téton. C'est merveilleux. Et maintenant, vous comprenez mieux le contexte de l'histoire plus tard du roi Josias, où après un temps, on a délaissé le temple, on a retrouvé le Deutéronome, le livre des Deutéronome dans le temple. Mais il n'était plus à l'emplacement d'autrefois. Ça colle. Donc, on a trouvé l'emplacement que Salomon a préparé. On a trouvé exactement les mesures du lieu très saint et aussi la largeur des murs. Et aussi la place pour le rouleau du Deutéronome dans le temple. N'est-ce pas? Je vous ai dit, le texte de référence était gardé dans le temple. Et non pas seulement le Deutéronome. Dans le temple, on avait aussi les autres livres, mais pas dans le lieu très saint. J'ai dit, il y a là une rampe naturelle vers l'est. Donc ça veut dire que le lieu très saint était plus haut que le lieu saint. Vous vous trouvez toujours à l'est du lieu très saint. Comme vous voyez ici. Donc, j'ai dit, je ne suis pas Picasso, mais j'ai essayé de représenter un peu. Vous voyez ici le lieu très saint. Avec l'emplacement de l'Arche de l'Alliance, et ça descend, et ça fait une différence de 3,15 m. Et il faut dire, donc il y avait ce rampe dans le temple de Salomon. Le jour du grand pardon, le Yom Kippour, où le souverain sacrificateur est entré une fois par an, même dans le lieu très saint, pour apporter le sang du sacrifice. Alors, il a dû monter ce rampe pour aller à travers le voile dans le lieu très saint. Mais dans le deuxième temple, nous savons par le Talmud, le traité Midot, c'est un traité qui explique exactement les mesures du deuxième temple. C'était écrit en vue d'un troisième temple, pour qu'on ne perde pas les mesures exactes. Alors dans Midot, il est dit, dans le deuxième temple, on a mis des grandes pierres ici sur le fondement pour assimiler la hauteur du lieu saint au très saint. Il y avait une différence de 3 doigts. Eh bien, dans le livre d'Ézéchiel, 40 et 48, le troisième temple futur est décrit. Et là, il est dit qu'il y aura un remblai de mise à niveau, de hauteur, une canne. Et une canne est expliquée, en Ézéchiel 41, elle 40, à 6 coudées royales, donc de 7 paumes. Et ça fait 3,15 m. Vous pouvez aller mesurer, ça fait une différence de 3,15 m. Vous voyez, les mesures sont absolument précises. Ça, c'est sans souci du détail. Et maintenant, 5. Pour finir, sa prophétie. Quand je vois ces pierres-là, ah, ça me touche. Parce que, vous voyez ici, seulement une partie du milieu. C'est un énorme assemblage de pierres que David avait fait pour gagner plus de mètres carrés pour son palais. Et même aujourd'hui, vous voyez là une partie, mais on voit beaucoup plus, mais c'est encore le double. Donc c'est une construction énorme de David. 7 fois dans la Bible, le Millo, qui veut dire ce qui remplit. Mais là, c'est un peu brun. Vous voyez la différence des pierres? Là, ce mur date de Néhémie. Néhémie, après la captivité babylonienne, est revenu pour reconstruire Jérusalem. Il a construit les murs de Jérusalem, décrit entièrement en Néhémie 3. Et ça, c'est de Néhémie. Et pourquoi ça me touche tellement? Parce que Néhémie, selon la Bible, est retourné pour reconstruire Jérusalem à l'an 445 avant Jésus-Christ. Et il y a une prophétie que Daniel avait déjà reçue à Babylone, pendant la captivité, lorsque Jérusalem était encore une ruine. Daniel 9, 25. Et sache et comprends. Donc nous allons savoir, nous allons comprendre. C'est un impératif. Sache et comprends. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines d'année et 62 semaines d'année. Alors, ici, on peut calculer la venue du Messie, du Sauveur promis. Depuis le moment où une parole va sortir pour rebâtir Jérusalem, et lisez Néhémie 2. Là, le roi Artaxerxès, j'aurais presque dit de l'Iran, de la Perse, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Il était favorable aux Juifs. D'ailleurs, le peuple iranien, en large nombre, est aussi aujourd'hui favorable. C'est le gouvernement qui haït Israël. Mais, ce roi Artaxerxès, il a donné à Néhémie la permission pour rebâtir Jérusalem. Et il est allé pour rebâtir. Ça date de l'an 445 avant Jésus-Christ. Le moment où on peut calculer la venue du Messie. Donc, jusqu'au Messie, le prince, lorsqu'il vient comme prince, il y a 7 et 62, donc 69 semaines d'année. Eh bien, qu'est-ce que c'est une semaine d'année? Une semaine de jours, c'est clair? C'est une unité de 7 jours. Une semaine d'année, c'est une unité de 7 ans. Ce qui est très important pour le calendrier juif. On calcule en des unités d'année, de 7 années. Eh bien, 69 fois 7 ans depuis cette parole jusqu'au Messie. Mais lorsqu'il vient comme prince, à quel moment Jésus-Christ est vraiment apparu comme prince, non pas à Bethléem. On a mis l'enfant dans une crèche. Ça, c'est pas royal. Ça, c'est l'humilité. Mais lorsque, à l'an 32, au jour des palmiers, il est entré sur un âne comme roi à Jérusalem, eh bien, c'était avril 32 après Jésus-Christ. Maintenant, nous avons donc les deux dates, 445 avant Jésus-Christ, 32 après Jésus-Christ. Et entre deux, il faut 7 semaines et 62 semaines. C'est divisé parce que les 7 semaines d'année, 49 ans, sont en rapport avec la totale reconstruction de Jérusalem. D'abord les murs, et seulement après, on a rebâti la ville avec les maisons. Eh bien, 49 ans, et ensuite, c'est les 62 semaines d'année. Et maintenant, il faut savoir, les années prophétiques de la Bible sont des années lunisolaires. Des années solaires, environ 365 jours, un peu plus. Et les années lunaires sont 354 et quelques. Et au milieu, il y a 360. Et dans la Bible, aussi dans la prophétie des 70 ans de Jérémie, ou aussi dans l'Apocalypse, les 3 ans et demi de la fin sont égales à des années de 360 jours. Eh bien, on peut calculer. 62 et 7 semaines d'année, 69 semaines d'année, n'est-ce pas? Et maintenant, on peut calculer 69 fois 7 fois 360 jours, ça nous donne 173 880 jours. Et la Bible dit, l'édit d'Artaxerxès était au mois de Nissan. Ça c'est pour nous mars-avril. Et la vue du Seigneur sur l'âne comme roi est reçue par le peuple, par la foule comme roi. C'était mars-avril. C'était à l'époque de la Pâque. Mars-avril, 32 après Jésus-Christ. Et si vous calculez le nombre de jours entre ces deux dates, ça vous donne la possibilité pour mettre exactement les 173 880 jours. On peut prouver que Jésus de Nazareth est le Messie de la Bible juive, de l'Ancien Testament. Une fois, j'ai eu une discussion pendant toute une après-midi avec un juif orthodoxe à Lausanne. Et je lui ai fait le calcul après la crue que Jésus est le Messie. Mais ça, c'est seulement une prophétie. Mais j'ai fait pour moi une liste de plus de 300 prophéties. D'ailleurs, le premier qui a fait le calcul vraiment au jour même, c'était Sir Robert Anderson au 19e-20e siècle. Et lui était à l'époque chef de Scotland Yard. Il était d'ailleurs. Il fréquentait une église de frères, Brethren Assembly, en Angleterre, et il était vraiment le plus haut chef de la police. Donc il était vraiment destiné pour faire ce travail de détail. On sent parmi des astronomes de Greenwich. Alors, fantastique. On peut prouver. Mais le texte va plus loin. Et après les 62 semaines, donc d'abord les 7, n'est-ce pas, pour la construction, ensuite 62 semaines, et là, à la fin, le Messie va venir, comme prince. Mais après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. On va le tuer. Et il n'établira pas un royaume de paix mondiale. Il n'aura rien. Et maintenant, nous pouvons, à la rétrospective, on peut dire, oui, 5 jours après dimanche des rameaux, des palmiers, le Seigneur a été tué vendredi. Et il n'a pas établi un royaume de paix. Vous voyez, sur le rocher de Golgotha, devant les murs de la ville, devant la porte appelée Gennat, la porte du jardin, il est mort là. C'est le rocher de Golgotha. Alors, vous voyez, tout s'est accompli à la lettre, aussi donc la mort du Messie, mais le texte continue dans les 9:26b. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Un choc pour Daniel. N'est-ce pas? À l'époque où le premier temple était en ruine et la ville, il reçoit la prophétie. La parole sortira pour rebâtir Jérusalem. Et tu peux calculer jusqu'à ce que le Messie vienne comme prince, le sauveur. On peut calculer. Maintenant, on sait quand il va venir. Après, il va être tué. Et dans la suite, la ville, non pas la Rochelle, Jérusalem, n'est-ce pas? La ville, le contexte parle de Jérusalem. La ville et le lieu saint, le deuxième temple, va être détruit. Donc c'était clair, le Messie va venir encore à l'époque du deuxième temple. Mais le deuxième temple a été détruit en 70. Donc avant 70, le Messie doit être venu. Donc tous les 50, plus de 50 faux Messies dans le judaïsme, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Menachem Schneerson, qui est mort il y a quelques années à New York, considéré comme Messie. C'était tous trop tard. Simplement trop tard. Et voilà, vous voyez, là, les restes de la destruction du temple, autrefois, l'arc de triomphe de Titus à Rome, mémorial de la destruction de Jérusalem. Ce sont des faits historiques. Ces faits après la mort du Messie, la destruction de Jérusalem. Pourquoi? C'était la conséquence du rejet du Messie. Alors, vous voyez, j'ajoute encore là un symbole pour la destruction de Jérusalem et du Temple. Et la prophétie continue encore. Mais je vous donne quelques exemples pour pouvoir finir comme il faut. Alors, mais c'est merveilleux. Et je me rappelle, à 14 ans, j'ai reçu un livre d'un juif messianique américain qui a décrit dans la prophétie du Messie et entre autres aussi la prophétie des semaines de Daniel. Cela m'a bouleversé. Je me vois encore devant ma table étudier cela. Ça m'a bouleversé. Et peut-être vous comprenez pourquoi, plus tard, jamais j'ai eu le problème du doute. Jamais. À l'école, des confrontations avec des profs, avec des élèves. Jamais avoir le problème du doute. N'est-ce pas? J'ai beaucoup de compréhension pour ceux qui ont un problème du doute. Je peux comprendre. Mais c'était une grâce. Et j'ai vu, par la parole, on peut recevoir une telle sécurité intérieure et conviction, non pas par un saut aux ténèbres, mais pour dire, nous savons pourquoi nous croyons. Et j'aimerais finir par la parole du Seigneur en Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Merci.